chers auditeurs et chères auditrices, rebonjour. Aujourd'hui, nous terminons notre série concernant la prière du royaume. La prière que Jésus a donnée à ses disciples et finalement pour nous tous les chrétiens dans le monde. Nous arrivons donc à l'étude numéro 4 et nous terminerons cette étude, cette série, et nous aurons quelque chose de magnifique que le Seigneur m'a mis dans le cœur de commencer demain, Dieu voulant. C'est au sujet des pensées. Nous avons des pensées, des fois, soyons honnêtes, qui ne sont pas toujours très correctes. Et des fois, je dis avec humour, pas très catholique. Ça veut tout dire. Et nous commencerons donc cette série. Il y a autrefois, dans le 18e, début 19e siècle, un grand homme de Dieu qui avait écrit sur ce thème. Les pensées secrètes, les pensées qui nous viennent de l'ennemi, qui nous perturbent. Et en ce temps-là, il n'y avait pas Internet, évidemment. Il a reçu des milliers de lettres de par le monde, tellement qu'il y avait même des vrais chrétiens, voire même des serviteurs de Dieu qui avaient des problèmes avec des pensées, et avec mon humour je dis, et vous l'avez compris ce que ça veut dire, pas très catholique. Ce qui veut dire pas très correct, vous l'avez compris. Mais revenons donc pour terminer notre série. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Jésus dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour absolument personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, le juge refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune depuis longtemps, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête, me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Avez-vous entendu ce qu'il a dit ? Entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice ? À ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Saint Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. Dans cet évangile, le Sauveur veut nous faire comprendre l'impérieuse nécessité de la prière constante. mais il ne peut vouloir parler de certaines prières extérieures, machinales, des prières que on récite machinalement, comme un moulin de prières, tendant à faire croire que pour plaire à Dieu, il faut user de beaucoup de paroles, faire peut-être des gestes un peu théâtrales, composer des attitudes. Et d'abord, sachons pourquoi nous devons prier sans cesse, et prenons la prière tant à cœur que notre vie durant, nous ne nous arrêterons pas de prier. Puis comprenons que l'exaucement dont parle le Sauveur n'a pas lieu maintenant, mais peut tarder selon la fidélité et la constance de la prière. Qu'est-ce donc qu'il faut demander jusqu'à son parfait accomplissement? À la fin de notre texte, il est clair que le Sauveur parle de son avenir. Tant que le Fils de l'homme n'est pas venu, il nous reste beaucoup à demander. Nos regards doivent être dirigés droit sur son retour et sur le grand salut de la création entière qui aura lieu par ce retour. Ne nous lassons donc pas de répéter par nos prières et nos supplications que ton règne vienne, ô Seigneur, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Toute autre demande ne sera pas supérieure, mais il est clair que notre Dieu est un Père de compassion et qu'il répond à toutes nos prières. Alléluia. Le Sauveur parle premièrement du temps où l'Église, la communauté de Dieu, sera sur terre comme une veuve abandonnée dans la détresse. Mais alors, nous entendons Jésus lui-même nous dire « Je ne veux pas vous laisser orphelins, je viens vers vous. » Il ne veut donc pas notre perte, mais il veut être avec nous jusqu'à la fin du monde. Tant que Jésus est là, la communauté de Dieu n'est pas une veuve, et les enfants de Dieu ne sont pas des orphelins. Dans l'évangile de Saint Jean, le Sauveur promet l'autre consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, afin que les siens ne soient pas orphelins. Et à la Pentecôte, il a visité ses enfants avec toutes les forces et les grâces divines de cet Esprit Saint. La première communauté des chrétiens, elle gardait en elle toute la splendeur de Dieu. Jamais, oh oui, jamais, elle n'a été veuve ou orpheline. Oh, bienheureuse était-elle quand elle pouvait dire « Il ne nous manque aucun don. Nous attendons seulement sa venue. » 1 Corinthiens, chapitre 1. La communauté chrétienne était alors pareille à une joyeuse fiancée, et elle vivait dans une communion bénie avec son Sauveur. Elle ne manquait donc de rien, car elle pouvait compter sur la force de Dieu. Il est dit de notre époque qu'il se trouvera encore des élus pour crier au Seigneur jour et nuit. Dans ce pitoyable et lamentable monde, parmi les hommes tourmentés. Beaucoup cependant crient à Dieu. Ce sont les élus. Eux aussi sont malheureux. Eux aussi se sentent abandonnés. Eux aussi sont pressés par l'adversaire. Mais ils gardent une chose. Ils savent qu'il faut prier parce qu'il faut que la situation s'améliore. On ne peut laisser le diable prendre tout. Il s'agit donc de se hâter pour sauver ce qui reste à sauver. Il y a donc des élus, même à présent. Parmi eux, on peut ranger ceux qui croient encore à Jésus-Christ et à qui il accorde encore les regards de sa grâce, bien que ce ne soit que comme un rayon de lumière à travers une fente. Or ceux-là ont l'assurance que le Sauveur ne repousse personne, ne néglige aucun de ceux qu'il invoque, qu'il appartienne à l'Église des Adventistes ou à une Église évangélique qui peut-être ne respecte pas le sabbat de la même manière que les Juifs. Mais là-dessus, j'avais fait en son temps toute une étude. L'important, c'est le salut. Et si nous pouvons essayer de nous entendre, nous, les nés de nouveau en Jésus-Christ, eh bien ce sera déjà pas mal. Voyez-vous, ces croyants de notre époque, petits troupeaux isolés, ce sont les sages qui se soucient de la parole de Dieu et qui se préoccupent du salut de leur âme et qui combattent le péché inné en eux et s'efforcent de rester fidèles au milieu des tentations de ce monde. C'est la petite communauté qui regarde en haut, qui ne place pas son bien suprême sur cette terre qui s'efforce chaque jour de plaire à Dieu. Les élus crient donc jour et nuit. Ils s'inquiètent jour et nuit de la grande détresse qui règne en ce monde, sans trêve, chémissant et se lamentant sous la tyrannie de Satan. Chers amis, entre nous, voyez-vous que nous fassions partie d'une église ou d'une autre, qu'elle s'appelle adventiste ou baptiste ou évangélique, voyez-vous le problème? Je disais autrefois à une personne, nous serons peut-être un jour étonnés de ne pas rencontrer certains au ciel que nous étions pourtant 100% sûrs qu'ils devraient y être, et de peut-être rencontrer certains que nous avons pensé qu'ils ne pourront jamais y être. Va savoir, on sera peut-être étonné. Il y a aussi de nos jours des croyants qui ne font pas réellement partie de ces élus qui prient sans trêve ni relâche. Parmi ces croyants nombreux sont les découragés qui voient tout perdu a priori. Ils ne s'occupent que de leur propre salut et leur cœur ne se trouble pas à la pensée de tant de milliers et de millions qui sont voués à la damnation. Ils ne croient pas, témoins de tous côtés de la suprématie du diable, que l'on puisse obtenir encore quelque chose de la compassion de Dieu pour ce monde pécheur. Fidèles pour leur part, ils abandonnent ce monde à son sort et ils n'ont pas l'énergie de crier à Dieu afin qu'il regarde toute cette misère à la lumière de sa miséricorde et cherche son butin parmi les réprouvés. Beaucoup aussi, lorsqu'ils se mettent par hasard à prier et ne constatent pas aussitôt l'efficacité de leur prière, ils renoncent sous prétexte que Dieu veut montrer à la chrétienté indigne qu'il est un Dieu juste. N'est-il pas écrit ? On ne se moque pas de Dieu. À ceux-là, le Sauveur commande de prier malgré tout et de surtout ne pas abandonner. Il faut qu'ils s'affligent du caractère de veuvage de l'Église. Il faut qu'ils revêtent les habits de deuil et crient au Dieu vivant. La puissance du malin est grande. Il semble qu'il n'y ait plus rien à faire. Qu'importe, veillons et luttons jour et nuit, car un jour le Seigneur nous déclarera pour responsables. Renonçons donc à toute hésitation, à toute crainte, tout préjugé, à toute obéissance et obéissons surtout. Oui, c'est ce que je voudrais dire. Obéissons surtout, prions, représentons-nous sans cesse le but que nous cherchons pour atteindre par nos prières, par vos prières et par nos et par vos supplications. Aucun progrès ne serait-il visible ? Aurions-nous l'impression d'avoir tout perdu, alors ne nous arrêtons pas et surtout ne nous lassons pas. Chers amis, il nous semble que le juge nous repousse en disant « Que veux-tu ? Que veux-tu avec tes cris ? Va-t'en ! » Eh bien non. Et encore non. Revenons cependant à la charge. Il est exigé des élus qu'ils insistent et qu'ils insistent encore et encore, cherchant ainsi à forcer l'impossible. La lutte que livre la veuve contre le juge inique, rappelez-vous, cela nous montre que c'est en effet une entreprise difficile, désespérée à vue humaine, de sauver ce qui est perdu. L'apostasie de tous est trop grande. La violation de la justice de Dieu est bien trop manifeste. Si quelqu'un essaye d'obtenir d'en haut une aide efficace, il se rendra compte que l'entreprise est sérieuse et grave. Dans certains cas, on peut adresser 10 fois, 100 fois, une ardente supplication à Dieu, et il semble que toute requête se perd dans l'espace et que le ciel est de fer, comme l'on écrit et quand on a écrit les prophètes. Mais le Seigneur l'a prédit dans notre parabole. « que c'est au prix de grandes peines, de sacrifices et de violents combats que le petit troupeau obtiendra la victoire. Le petit troupeau se donnera corps et âme, renonçant au confort extérieur et jusqu'à la paix intérieure, uniquement occupé à crier au Seigneur, non par des paroles, c'est l'esprit qui doit être fixé sur le Dieu vivant et de sa promesse. Le juge inique, il s'est laissé fléchir, rappelez-vous, et nous avons donc l'assurance que le Dieu saint, juste et bon, finira par céder à nos intercessions, car, dit le Seigneur, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour, et tardera-t-il à leur égard? Il nous le dit, il leur fera prompte justice. Gloire à Dieu. Ainsi, mes chers amis, le Sauveur commande de prier à ceux qui se réclament de lui. Ses disciples s'entendaient mieux que nous à lui obéir. En effet, ils ne possédaient rien sur la terre, surtout pas l'Internet et tous les gadgets d'aujourd'hui, ayant tout abandonné, père, mère, frères et sœurs, voire même maison et foyer. Qu'aurait-il d'autre à demander par la prière, sinon que le monde entier soit à Christ? Mais nous aussi devrions avoir pour seul objet de nos désirs que tout genou fléchisse au Saint-Nom et par le Saint-Nom du Seigneur Jésus-Christ. Chers amis, gardons donc une foi inébranlable. Certes, le nombre des élus est restreint, et cela nous amène à un troisième point de notre texte. Le Seigneur ajoute avec mélancolie, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ?» La foi dont parle Jésus, c'est celle qui, en dépit de tout, attend l'ultime secours. La foi qui peut croire et croire inébranlablement au retour de la grâce divine, cette foi-là, persuadée que le Seigneur viendra, elle nous sauvera tout d'un coup. Hélas, tant de gens, malgré leurs convictions chrétiennes, sont affligés d'un tel manque de foi. À côté de leur certitude chrétienne, de leur connaissance chrétienne, à côté de constantes recherches et méditations de l'Écriture sainte, ils font preuve de tellement de doutes, d'incroyances et d'oubli des promesses de Dieu. Oh mes chers amis, c'est cela, c'est le pire, avoir un sauveur et être incroyant. Je faisais partie de ceux-là. Pendant plus de 40 ans, j'étais un soi-disant chrétien. Un chrétien de nom, si vous voulez. N'est-ce pas? Avoir la foi. Oui. Avoir la foi. Et de ne pas l'avoir. Parler d'un sauveur, devant lequel tous genoux devraient fléchir. Et cependant croire en son fort intérieur. que le diable est plus puissant que celui qui s'est élevé à la droite du Père. Je faisais un peu partie de ceux-là. J'étais un pseudo-chrétien. Imaginez que vous soyez au point culminant de cette triste époque. La venue du Seigneur est proche, mais l'adversaire tient tout dans ses horribles griffes. Les fidèles sont tourmentés, enchaînés, massacrés par milliers. Combien seront-ils alors ceux qui garderont une foi inébranlable? Un jour le ciel retentira du fracas de la trompette et de toute l'année de l'ennemi. Oui, on peut dire, tout cela sera jeté au gouffre. Et ce jour-là sera-t-il retardé parce que la foi fait défaut sur la terre? Oh, que le secours serait proche, qu'il serait rapide, si les hommes et les femmes pouvaient mettre leur confiance dans le Sauveur, s'ils savaient qu'il vit réellement pour les siens, oui, pour ceux qui croient en lui et qui crient à lui. Mes bien-aimés, puissions-nous, pour notre part, demander au Seigneur de nous donner la foi. Ce n'est que par la foi que nous ferons de grandes choses, que nous vaincrons les forces des ténèbres. Ce n'est que par notre foi tendue vers le ciel que nous sauverons des milliers d'hommes, que nous attirerons les forces de Dieu vers nous sur la terre. Veuille donc le Sauveur exaucer les supplications du petit troupeau que nous sommes. Gloire à Dieu. Amen. Et chers amis, cette série est donc terminée. Je voudrais, avant de prier, eh bien oui, je voudrais tout simplement vous donner quelque chose pour l'enseignement et pour aussi, pour vous encourager. Avec Jésus, l'on chemine tantôt parmi les ronces ou dans les endroits désolés, tantôt même en pleine clairière, sur les sommets ou dans les vallées. Mais là, où Jésus nous conduit, Jésus donne aussi la force qu'il nous faut. Quelle magnifique expérience d'être toujours conduit par Jésus, votre maître, notre maître. Mais souvenez-vous que ce n'est pas toujours à cause de vous qu'il vous engage, qu'il vous conduit dans tel ou tel sentier. Nous cherchons ensemble la brebis égarée. Nous mettons le royaume là où il n'est pas encore connu. N'oubliez jamais que le Seigneur vous associe à sa quête, à sa grande quête, quête des âmes, et qu'il faut suivre à la trace pour les sauver. Ce n'est pas arbitrairement, ce n'est pas pour son bon plaisir qu'il choisit pour vous des chemins qui mettent vos nerfs à l'épreuve et qui vous fatiguent. Vous êtes au service de ceux qui se perdent. Peut-être en ce qui vous concerne. Ne voyez-vous pas toujours où il veut en venir et qui nous devons atteindre? Mais Jésus, il le sait. Cela devrait suffire. Chers amis, je dois quand même vous dire que c'est un miracle que, à 90 ans, à 90 ans, le Seigneur a permis que je puisse parler d'une façon audible. C'est pas évident. Oh, pas du tout. Eh bien, si il a fait de nombreux miracles pour moi, il est prêt de les faire aussi pour vous, mes chers auditeurs et chères auditrices, pour vous. N'ayez donc pas peur de lui apporter vos requêtes. Si vous avez dans votre famille une personne malade, n'hésitez pas. Pourquoi hésiteriez-vous? Non. Vous avez le droit, comme enfant de Dieu, de n'importe quelle dénomination religieuse à qui vous appartenez, vous avez le droit de prier pour la personne malade. Exactement de la même manière que vous avez le droit pour prier pour quelqu'un que vous connaissez, qui n'est pas encore sauvé, pour que le Seigneur touche son cœur, son esprit, son âme, pour que cette personne puisse être sauvée. Prions donc maintenant. Notre bon Père Céleste, tu tiens le présent et le futur dans ta main. Ce qui est aujourd'hui et ce qui sera demain, aide-nous à placer notre vie dans la lumière de ta sainte parole. Fais-nous sentir que tu veux être avec nous pour les heures de joie et de bonheur. Rends-nous reconnaissants dans les jours d'épreuve et de soucis. Fortifie-nous par ta bonne main et que ta grâce en notre Seigneur Jésus-Christ soit pour nous une provision de force. Amen. Chers amis, soyez bénis et je vous embrasse tous avec tout mon amour fraternel. Et demain, Dieu voulant, ah oui, quelque chose, une série très, très, très importante, croyez-moi. Je prie pour que le Seigneur bénisse la série qu'il m'a donnée à vous apporter à partir de demain. Au revoir, mes très chers amis. Soyons courageux. Levons-nous et prions. Amen.